Chapitre 2. Les tempéraments trop actifs et les cœurs tendres rencontrent deux grands empêchements dans la vie de bord. Il y est difficile de se donner de l'exercice à souhait, il y est à peu près impossible d'avoir des intrigues amoureuses sans être découvert. Pour ne parler que de la seconde difficulté, un navire, avec sa population condensée, est une maison de verre. Du matin au soir, on s'y marche sur les talons. Bien fin qui volera un baiser à bord. Un talent naturel pour la haute stratégie, une imagination inépuisable en ressources, une patience à toute épreuve, une présence d'esprit capable de résister à toutes les surprises du hasard, voilà quelques-unes des qualités que l'amour doit embarquer pour une croisière lorsqu'il s'est faufilé sur le navire en marchandises de contrebande. Après avoir inventé un code de signaux assez complet, qui leur permettait de communiquer entre eux, Nathalie et Lance avaient eu à résoudre une difficulté plus sérieuse, qui était de trouver un moyen de se voir en secret à bord du yacht. Lance ne s'était pas montré à la hauteur de son rôle. Laissée à ses propres ressources, Nathalie avait d'abord insinué que les études médicales de Lance pouvaient lui fournir un prétexte indiscutable pour s'enfermer de temps à autre dans les régions inférieures, puis elle avait eu l'idée de se déchirer elle-même ses robes pour avoir un motif à son tour de se condamner à la réclusion. De cette façon, le couple amoureux tâchait, pendant que les autorités de l'endroit se promenaient sur le pont, de se réunir clandestinement dans les dessous du navire, sur le terrain neutre du salon. C'est là que, d'après les conventions prises à déjeuner, ils se proposaient de se rencontrer en ce moment. Comme d'habitude, ce fut la porte de Nathalie qui s'ouvrit la première. Elle était la plus adroite, c'était à elle de prendre l'initiative. Elle leva les yeux vers le plafond, elle aperçut les jambes des deux gentlemen et la jupe de sa tante du côté sous le vent. Rassurée, elle fit trois pas et s'arrêta pour écouter. Les voix se taisaient sur le pont. Elle regarda de nouveau. Deux jambes, pas celles de son père, avaient disparu. Sans hésiter un instant, elle se jeta dans sa cabine, juste à temps pour éviter Richard Turlington, qui descendait l'escalier. Il ne fit qu'ouvrir un tiroir sous la bibliothèque de bord, où il prit une carte avec laquelle il remonta sur le pont. Cependant, la conscience troublée de Nathalie lui disait qu'il était venu pour l'espionner. Lorsqu'elle osa se montrer pour la seconde fois, au lieu de quitter sa cachette, elle ne fit qu'avancer la tête. Puis, d'une voix très basse, « Lance » fit-elle. Lancelot ouvrit sa porte. Au moment d'en franchir le seuil, il fut arrêté par un geste de Nathalie. « Ne bougez pas ! Richard sort d'ici ! Il a des soupçons sur nous ! Comme vous voilà peureuse, venez donc ! Pour rien au monde, si vous ne trouvez pas un autre endroit que le salon ! Un autre endroit ! Comme c'eût été facile de trouver à terre, et comme cela semblait impossible à bord. Il y avait bien le gaillard d'avant, mais il était plein de monde. Il y avait la chambre aux voiles à l'autre bout du navire, elle était bourrée avec les agrès. Il y avait enfin la cabine qui servait à la toilette des dames. Celle-là était inaccessible à tout être du sexe masculin. Restait-il un espace fermé quelconque dont on pût tirer parti? D'un côté étaient les réduits du contremaître et de son aide, impossible d'y songer. De l'autre côté, il y avait la cambuse du steward. Lance réfléchit un moment, il avait son affaire. « Où allez-vous donc ? » demanda Nathalie en le voyant se diriger vers une porte fermée à l'extrémité du salon. « Je veux parler au steward, ma chérie. Attendez un moment et je suis à vous. » Lance ouvrit la porte du magasin. Il y trouva non pas le steward, mais sa femme. Il ne perdait pas au change. Ayant déjà volé plus d'un baiser à bord et ayant été surpris chaque fois soit par le steward, soit par la stewardesse, Lance n'éprouvait aucun embarras à demander la concession de la cambuse pour un rendez-vous. Il pouvait compter sur le silence sympathique des autorités qui commandaient cette région du navire, car il n'avait pas négligé l'emploi des arguments monnayés. Toutefois, des deux, la stewardesse, en sa qualité de femme, était la plus facile à gagner à sa cause. Après avoir un peu résisté pour la forme, elle consentit non seulement à quitter le magasin, mais encore à en éloigner son mari, à la condition qu'elle pourrait revenir au bout de 10 minutes. Lance fit signe à Nathalie d'entrer pendant que la stewardesse sortait par la seconde porte. Un instant plus tard, les deux amants se virent réunis à l'abri des curieux. Nathalie s'assit sur une caisse. Elle avait derrière elle le thé, le sucre, les épices. Une flèche de lard se balançait au-dessus de sa tête. Un filet rempli de citron pendillait devant ses yeux. Si l'endroit n'était pas spacieux, il était confortable et bien clos. « Et si l'on appelait le steward » fit-elle. « Ne vous inquiétez pas de ça, nous n'avons rien à craindre. Si on appelle le steward, il se montrera sur le pont et on n'y verra que du feu. »«
Parlons vite, Lance. J'ai de terribles nouvelles à vous communiquer. Et d'ailleurs, je suis sûre que ma tante m'attend déjà avec mon falbala recousu. »
Elle avait apporté une aiguille et du fil. Elle prit le devant de sa robe sur ses genoux et se pencha pour la réparer consciencieusement. Dans cette position, sa tête charmante offrait au regard, dans tout leur jour, ses contours fermes et légers. L'aiguille, dans ses doigts bruns, volait à travers l'étoffe. La caisse de bois où elle était assise était assez large pour deux, Lance y prit place à côté d'elle et un peu en arrière. Qui eût pu résister alors à la tentation de soulever l'épaisse torsade de cheveux noirs pour mettre à découvert la chaude carnation de cette nuque? Qui, l'ayant fait, n'eût maudit l'absurde coiffure moderne qui empêche de voir la double beauté de forme et de couleur que recèle une nuque de femme? De temps à autre, les lèvres de Lancelot soulignaient les paroles les plus importantes de son discours, sur la peau douce et parfumée qu'il découvrait en jouant avec les tresses de la jeune fille.
« Eh bien, Nathalie, quelles sont ces nouvelles ?»«
Il a parlé à mon père, Lance. »«
Richard Turlington ?»«
Oui. »«
Que la peste soit ! Fi, le vilain ! C'était pendant que vous étiez sur le pont à fumer votre cigare et qu'on me croyait endormi. J'ai ouvert le petit volet de la porte de ma cabine, mon cher, et je n'ai pas perdu un mot de leur conversation. Il avait attendu que ma tante fût partie et qu'il eut mon père tout seul sous la main. Alors, il a commencé à parler avec cette horrible voix cassante que vous savez. « Greybrooke, combien de temps faudra-t-il encore que j'attende ?» Il a dit cela.
« Ne jurez plus, Lance, ce sont ses propres paroles. » Mon père ne le comprit pas d'abord. Il dit seulement le pauvre chéri. « Bon Dieu, mon ami, qui a-t-il donc ?»
Richard s'expliqua tout de suite.
« Qui pouvait-il attendre sinon moi ? »
Papa dit alors que j'étais bien jeune.
Richard lui coupa la parole.
« Les filles sont comme les fruits. Les uns sont mûrs plus tôt, les autres plus tard. Les unes deviennent femmes à 20 ans, les autres à 16. On n'avait qu'à me regarder, disait-il, pour se convaincre que 2 mois de promenade en mer m'avaient tout à fait rétabli, et ainsi de suite. Mon pauvre père se débattait bravement.
« Il sera toujours temps, Richard, il sera toujours temps. »«
Il sera temps pour elle, dit le misérable, mais pas pour moi. Pensez à tout ce que je puis lui offrir, comme si je me souciais de son argent. Rappelez-vous depuis combien de temps je l'ai vue grandir avec l'espoir qu'elle serait un jour ma femme. J'ai grandi pour lui, horreur. Et ne me laissez pas dans une incertitude qui devient chaque jour plus pénible pour un homme dans ma situation. » Il fut presque éloquent. Sa voix tremblait. « Je suis sûre, mon cher, qu'il m'aime beaucoup, beaucoup. »
« Et cela vous flatte. »
« Ne plaisantez pas, ça m'effraie au contraire, je vous assure. »
« Ça vous effraie ?
À propos, l'avez-vous regardé ce matin ?»«
Moi ? Quand donc ?»«
Quand votre père a raconté cette histoire de l'homme qu'on a pêché à la mer. »
« Non ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Dites !»
« Je vous le dirai tout à l'heure. Mais d'abord, comment cela s'est-il terminé hier soir ? Sœur Joseph a-t-il fait une promesse ? » ?»«
Vous connaissez bien la manière de Richard. Il ne lui a pas laissé le choix. mon père devait prendre un engagement avant qu'on lui permît d'aller se coucher.
De vous donner à Turlington ?
Oui, la semaine après le jour où j'aurai eu 16 ans.
C'est la semaine après Noël prochain.
Oui, papa doit me parler aussitôt que nous serons chez nous et je dois me marier pour le jour de l'an.
Est-ce tout de bon, Nathalie ?
Vrai ? Les choses sont déjà si avancées que cela ?
Ils n'ont rien oublié, ni la brillante maison que nous devons faire, ni les gros revenus que nous aurons.
J'ai entendu dire à mon père que la moitié de sa fortune irait à Richard le jour du contrat. Cela brisait le cœur de voir combien il s'occupait de l'argent et point du tout des sentiments. Quel parti prendre, Lance ?
C'est facile à trouver, ma chérie. Et d'abord, il faut vous habituer à l'idée que vous n'épouserez pas Turlington.
Voyons, parlons sérieusement. Vous savez que j'ai fait ce que j'ai pu ? J'ai dit à papa que je puis me figurer Richard comme un ami, mais non comme un mari. Alors il rit et me répond « Attends un peu et tu changeras d'avis, ma fille. » Vous voyez bien que Richard est tout pour mon père. Il a conduit ses affaires, il lui a évité de faire des pertes par de mauvaises spéculations, il m'a connue toute petite, il a une splendide maison de commerce et beaucoup d'argent. Papa ne conçoit pas que je puisse résister aux avances de son ami Turlington. J'ai voulu sonder ma tante, je lui ai dit qu'il était trop vieux pour moi. Tout ce qu'elle me répond, c'est ceci. Vois ton père, il était bien plus âgé que ta mère, cela ne les a point empêchés d'être très heureux. Et quand je dirai « je ne veux pas épouser Richard », à quoi cela nous avancerait-il, nous ? Papa est bien le meilleur, le plus cher des hommes, mais hélas, il aime tant l'argent. Il ne croit pas à autre chose. Il serait furieux, ah oui, tout tendre qu'il est, il serait furieux si je lui laissais seulement entrevoir que c'est vous que j'aime. N'importe qui prétendrait à ma main sans avoir une fortune égale à la mienne, mon père le prendrait pour un fou. Il ne lui répondrait seulement pas, il sonnerait bien vite le domestique pour le reconduire. Je n'exagère rien, Lance, vous savez si je dis vrai. Je ne vois pas le plus petit espoir pour nous deux.
Est-ce tout, Nathalie ? Dans ce cas, j'aurai quelque chose à vous dire à mon tour.
Qu'est-ce que c'est ?
Si les choses vont comme elles vont maintenant, faut-il vous apprendre comment ça finira ?
Ça finira par votre mariage avec Turlington.
Jamais !
Vous le croyez aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce qui arrivera d'ici à Noël.
Nathalie, il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher que vous n'épousiez Richard. C'est de m'épouser, moi.
Sans le consentement de mon père ?
Sans un mot à personne avant que tout soit fini.
Oh, Lance, Lance !
Ma chérie, tout ce que je viens d'entendre me prouve qu'il n'existe pas d'autre voie de salut. Pensez-y, Nathalie, pensez-y. Il y eut une pause. Nathalie laissa tomber son aiguille et son fil et se cacha le visage dans les mains.
« Si ma pauvre mère vivait encore, murmurait-elle, si j'avais seulement une sœur aînée pour me conseiller et pour prendre mon parti. »
Elle hésitait évidemment. Lance profita, comme font les hommes, de son indécision. Il insista sans pitié.
« M'aimez-vous ? » lui dit-il tout bas à l'oreille. « Vous savez bien que je vous aime de tout mon cœur. »
« Eh bien, mettez Richard dans l'impossibilité de nous séparer. »«
De nous séparer ? Mais nous sommes parents. Nous nous connaissons depuis notre enfance. Il exigerait notre séparation que mon père n'y consentirait pas. »
Rappelez-vous ce que je vous dis, il exigera. Quant à votre père, Richard le fait marcher au doigt et à l'œil.
Mon amour chéri, il y va de notre bonheur.
Il l'entoura de son bras et attira doucement sa tête sur son sein.
D'autres jeunes filles l'ont fait, insistait-il. Pourquoi ne le feriez-vous pas ?
Répondre était au-dessus des forces de Nathalie, elle y renonça. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Elle se pressa contre lui et ferma faiblement les yeux. L'instant d'après, elle se leva en sursaut, tremblant de tous ses membres et regarda la claire-voie du plafond. La voix de Richard Turlington venait de se faire entendre juste au-dessus d'eux.
Greybrook, j'ai un mot à vous dire à propos de Lancelot Lindsay. »
Le premier mouvement de Nathalie avait été de s'enfuir. En entendant prononcer le nom de Lance, elle s'arrêta. Quelque chose dans le ton de Richard fit naître en elle cette curiosité qui suspend la peur. Elle attendit, sa main dans celle de Lance.
« Vous devez vous rappeler, poursuivit la voix rude du patron, que j'ai fait des objections quand vous parliez de l'emmener avec nous. Vous n'avez pas voulu m'écouter, j'ai cédé. J'ai eu tort. Lancelot Lindsay est un jeune homme présomptueux. »
« Mon cher ami, repartit Sir Joseph avec son rire plein de bonhomie, je vous trouve en vérité un peu dur pour Lance.
Vous n'êtes pas observateur, Greybrook. Moi, je le suis. Je remarque sa présomption vis-à-vis de nous tous et particulièrement vis-à-vis de Nathalie. Il a une manière de lui parler et de la regarder que je n'aime pas. Il est trop familier avec elle. Il faut y mettre le holà. J'ai le droit d'exiger qu'on respecte mes sentiments. Je vous demande formellement de faire cesser cette intimité quand nous serons à terre. »
Sir Joseph répondit cette fois sur un ton plus sérieux. Il exprima sa surprise.
« Mon cher Richard et son proche parent, ils ont joué ensemble tout petit. Comment pouvez-vous attacher la moindre importance à ce que dit ou fait ce pauvre Lance ?»
Il perçait dans cette dernière phrase de Sir Joseph un dédain moqueur qui exaspéra sa fille. On eût dit qu'il parlait de quelque animal domestique. Elle rougit, sa main pressée celle de Lance. Turlington insista.
« Encore un coup, je vous prie sérieusement de faire cesser cette intimité. Je ne vous empêche pas de l'inviter à la maison quand vous aurez du monde. Je désire seulement, et j'attends de vous, que vous lui fassiez comprendre qu'il ne doit plus tomber à Muswell Hill à toute heure de la journée ou du soir, quand il n'a rien à faire. Est-ce entendu ?»«
Si vous en faites une affaire, Richard, eh bien, c'est entendu. »
Lance regarda Nathalie quand son oncle le trahit ainsi.
« Qu'est-ce que je vous disais ? » murmura-t-il.
Nathalie baissa la tête. Les deux gentlemen s'éloignaient lentement.
« Votre père ne nous laisse pas le choix. Il me fermera sa porte dès que nous serons débarqués. Si je vous perds, Nathalie, je ne sais pas ce que je deviendrai. Je ne me soucie plus de ma profession. Il ne me reste rien qui me retienne à la vie.
« Taisez-vous donc !»
Lance essaya encore une fois du doux pouvoir des paroles.
« Mille autres qui étaient dans notre situation se sont mariés en secret et ont eu leur pardon après. Je ne vous demande pas de rien précipiter. Je me conformerai entièrement à vos désirs. Tout ce qu'il me faut pour me tranquilliser, c'est la certitude que vous m'appartenez. Soyez bonne, dites-moi que Turlington ne pourra pas vous détacher de moi. »
« Ne me pressez pas, Lance !»
Elle se laissa tomber sur la caisse.
« Voyez, je tremble rien que d'y penser !»«
Que craignez-vous, chérie ? Ce n'est pas votre père, j'imagine ?»«
Pauvre père ! Je voudrais savoir s'il oserait être sévère pour moi, la première fois de sa vie !»
Elle s'arrêta. Ses yeux humides imploraient la pitié de Lance.
« Ne me pressez pas » répétait-elle faiblement. « Vous savez que c'est mal !» Il faudrait finir par l'avouer, et qu'arriverait-il alors ?
Elle s'arrêta de nouveau, ses yeux erraient sur le plafond, sa voix devenait toujours plus basse.
« Songez à Richard, » dit-elle,
et un frisson la prit à l'idée de cet homme. Avant que Lancelot n'eût pu répondre, elle fut de nouveau sur ses pieds. Le nom de Richard lui avait rappelé l'allusion mystérieuse de Lance au début de leur conversation.
« Qu'était-ce donc ce que vous disiez de lui tout à l'heure ? Vous avez surpris quelque chose d'étrange pendant que mon père racontait son histoire. Qu'avez-vous vu ?»«
J'ai remarqué la figure qu'il a faite quand votre père nous a dit que l'homme dans l'eau n'était pas un matelot de sa barque. Il a pâli affreusement, il avait l'air d'un coupable. »«
Coupable ? De quoi ?»«
Il y était, j'en suis sûr, quand cet homme fut jeté à la mer. » « À tout prendre, il est fort possible que ce soit lui qui ait fait le coup. »
Nathalie recula d'horreur.
« Oh, Lance, Lance, qu'osez-vous dire ? Libre à vous de ne pas aimer Richard, de le traiter en ennemi, mais l'accuser d'un pareil crime ? Ah, ce n'est pas généreux,
je ne vous reconnais plus là. »
Si vous l'aviez vu, vous auriez conçu le même soupçon. Je ferai des recherches dans l'intérêt de votre père comme dans le nôtre. Mon frère est en position de me procurer des renseignements. Turlington n'a pas toujours été dans le commerce du Levant. C'est là un point que j'ai déjà éclairci.
Fi donc, Lance, fi donc!
Sur le pont, les pas revenaient de leur côté. Nathalie s'élança vers la porte qui ouvrait sur le salon. Lance la retint au moment où elle étendit la main vers le bouton. Les promeneurs s'éloignaient du côté de l'arrière. Le jeune homme l'entoura de ses deux bras, elle le laissa faire.
« Ne me poussez pas au désespoir, dit-il. Ceci est la dernière occasion que j'ai de vous parler. Je ne vous demande pas de vous décider tout de suite, je vous prie seulement d'y penser. Mon ange, mon cher amour, y penserez-vous ? »
Au moment où il lui adressa cette question, ils auraient entendu des pas qui s'approchaient de nouveau, si tous deux n'avaient été trop préoccupés l'un de l'autre pour écouter. Cette fois, une seule personne marchait. L'absence prolongée de Nathalie avait commencé à étonner sa tante et à exciter dans l'esprit de Turlington une vague défiance. Il jeta en passant un regard distrait dans le salon, puis s'approcha de la claire voix du magasin.
« Laissez-moi partir !» disait Nathalie.
« Dites oui !» fit Lance qui la retenait comme s'il ne devait plus la lâcher. Au même instant, la voix aiguë de Miss Lavinia appelait Nathalie. Il n'y avait qu'un moyen de se détacher. Elle dit
« Oui, j'y penserai »
Là-dessus, il l'embrassa et la laissa s'en aller. La porte s'était à peine fermée sur elle quand la figure menaçante de Richard apparut au bord de la claire-voie.
« Ah, ça !» s'écria-t-il d'un ton grossier en apercevant Lancelot. « Que faites-vous là dans la cambuse ?»
Lance saisit une boîte d'allumettes sur le dressoir.
« C'est pour avoir du feu !» répondit-il sans se déconcerter.
« Personne ne doit s'avancer là-bas, au-delà du salon, sans ma permission. Le steward a souffert d'une infraction au règlement. Il va quitter mon service. »
« Mais le steward n'y est pour rien. »
« J'en suis juge, et pas vous. »
Lance ouvrit la bouche pour répliquer. Une altercation entre les deux hommes était imminente quand le contremaître s'approcha du patron pour appeler son attention sur un sujet avec lequel on ne peut badiner en mer, l'état du vent et de la marée. Le yacht se trouvait alors dans le canal de Bristol, à l'entrée de la baie de Biddeford. La brise avait fraîchi et le vent tournait manifestement. On n'avait plus que 3 heures pour profiter de la marée.
« Le vent a changé, patron, disait le contremaître. J'ai bien peur que nous ne puissions pas doubler la pointe avec cette marée si nous ne virons pas de bord. »
Turlington hocha la tête.
« Il y a des lettres qui m'attendent à Biddeford, reprit-il. Nous avons perdu 2 jours par le calme. Il faut que j'envoie quelqu'un au bureau de poste de Biddeford au risque de manquer la marée. »
Le navire arrêta sa course. À la hauteur du port de Biddeford, le canot fut mis à la mer et on louvoya en attendant le retour du messager. Turlington eut ses lettres dans le délai rigoureusement nécessaire pour aller à terre et revenir. L'équipage était occupé de hisser le canot et le yacht portait déjà le cap au large quand Turlington, au grand ébahissement de tout le monde, donna l'ordre de stopper. Il avait mis toutes les lettres, une seule acceptée, dans sa poche de côté, sans les lire. Celle qu'il avait ouverte, il la tenait dans sa main crispée. Ses yeux hagards étincelaient de rage, la consternation était sur ses lèvres blêmes.
« Qu'on descende le canot, il faut que je sois à Londres ce soir !»
Sir Joseph voulut l'approcher, il l'arrêta du geste.
« Nous n'avons pas de temps à perdre en explications, il faut que je parte !»
Il enjamba le plat-bord et déjà, debout dans le canot, donna au contremaître ses instructions.
« Profitez de la marée si vous pouvez. Sinon, débarquez-les demain à Minehead ou bien à Watchet, où vous voudrez. »
Il fit signe à Sir Joseph de se pencher sur le bord pour entendre un mot qu'il avait à lui dire en aparté.
« N'oubliez pas ce que je vous ai demandé au sujet de Lancelot Lindsay. »
Son dernier regard fut pour Nathalie. Il fit un grand effort sur lui-même pour lui parler doucement.
« Ne vous alarmez pas, je vous reverrai à Londres. »
Il s'assit dans le canot et s'empara du gouvernail. Les dernières paroles qu'on lui entendit prononcer s'adressèrent au matelot qui avait pris les avirons. Sa brutalité ne se démentait pas un seul instant.
« Allez donc, fainéant, allez donc, drôle !»